Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Chers auditeurs et auditrices, je vous propose un reportage daté du 18 mars dernier au Café citoyen d'Auger-Saint-Vincent. À propos d'une conférence donnée par le sociologue passionné d'histoire Alain Bron sur les peuples francs et l'héritage qu'ils nous ont laissé. Pardonnez la qualité du son de certains passages, les conditions n'étaient pas toujours favorables à l'enregistrement. Il nous explique son intérêt premier pour le sujet et la façon dont il mène ses recherches.
J'aime toujours savoir, quand j'habite quelque part, quelle est l'histoire, où je mets mes pas finalement. Et puis... J'habite le village de Trumilly, qui a une histoire exceptionnelle. Et puis, Auger le Danois m'a conduit, en fait, sur toute la structure sociale des Francs, leur structure politique, leur façon de conquérir des territoires, et puis surtout d'asseoir un pouvoir qui existe jusqu'à maintenant, qu'on ne voit pas directement. Mais on est finalement héritier de tout cela.
Alors, les Francs, en tout cas la société franque, s'appuie sur quatre piliers très importants. D'abord, la guerre et les butins. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la guerre pour rien. Ils vont faire la guerre pour avoir le territoire. Le territoire, c'est l'agriculture et toutes les ressources naturelles. Et si, au passage, ils peuvent prendre des butins, c'est-à-dire de l'or et de l'argent clinquant, alors ils vont le faire. Et ce goût pour l'argent et les butins, ça détermine, en fait, un pan de la culture. Un pilier aussi qui s'appelle la famille, avec des clans, des amis, et ils vont mettre en France une coutume qui s'appelle la FAIDE, F-A-I-D-E, qui correspond plus ou moins à la vendetta aujourd'hui. C'est-à-dire que pour des raisons totalement subjectives, on pourra aller trucider quelqu'un parce qu'il a mal regardé, parce que finalement il a une mauvaise tête, et donc c'était permis.
Dans ta conférence, on le sent, tu lis beaucoup tes explications au territoire, à ce qui nous entoure, physiquement, matériellement, au paysage du département et plus localement du pays du Valois. C'est au cours de balades, au cours de recherches. Comment mènes-tu tes recherches alors que ce sont des histoires très locales que tu connais ?
En fait, les causeries que je fais, c'est... Moi, je suis sociologue, hein, je ne suis pas historien. Et donc, j'ai tendance à prendre le sujet par, bien sûr, l'histoire, c'est-à-dire les dates, mais pas que, par la vie des gens, par leur sociologie, par leur langue, par leur modèle économique. Et donc, les causeries que je fais, c'est en fait prendre tous ces éléments-là pour expliquer la situation historique, enfin de l'époque, mais aussi les traces qu'ils nous ont laissées.
Pour eux, c'est très important de prier pour les morts, et puis c'est la raison pour laquelle les prieurés, notamment dans l'Oise, mais dans toute la Picardie, vont se mettre en place. Alors ils vont mettre un système qui va durer des centaines d'années. D'abord, ils font la guerre, ils ont un butin. Ce butin, il faut le garder dans la ville royale. Et ils vont créer la notion de maire. Le maire, c'est celui qui va garder le butin. Les maires, évidemment, pour garder le butin, il leur faut quoi ? Une armée. Et certains maires deviennent plus puissants que le roi lui-même.
Cette question-là, ces histoires locales, attirent beaucoup de gens, ou surtout des gens du village, ou des villages alentours ?
Après, il y avait en fait ici les gens de pratiquement tout le Valois, de Senlis, de Mont-Lognon, de Verberie, de Rully, de Trumy, de Crépy, voilà. Peut-être d'autres que je ne connais pas. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont découvert leur propre histoire. Et cette propre histoire qui apparaît locale, très locale, en fait, c'est l'histoire de France. C'est ça qui est extraordinaire dans le pays valois, c'est qu'on peut, en tirant une ficelle, en fait, tirer toute l'histoire de France.
Ils mettent en place les évêques. Pour eux, c'est très simple. Hein. L'évêque, ils ont compris que ça avait un pouvoir considérable, à la fois spirituel et économique, et donc ils vont bombarder les neveux, les fils, etc., comme évêques. Dès le départ, une fois qu'ils ont épousé la religion catholique, ils vont bombarder et mettre les évêques partout où ils le peuvent. Et les évêques sont, comme par hasard, dans la famille. Les ducs, ils ont hérité ça des Romains, qui s'appelaient les ducs, c'est les chefs d'armée. Sont des gens très importants qui ont des armées et qui sont là pour récupérer quoi ? Le butin. Mmh. Et puis, ce qu'on oublie très très souvent et qu'on n'apprend pas, ils mettent en place les comptes pour administration locale et les taxes, c'est-à-dire les impôts. Ils vont mettre en place les barons pour les amendes. Un peu trop vite sur le radar de Bourrin, paf. Et enfin les marquis, très important. On s'imagine tout le temps les marquis avec des perruques coudrées, des machins comme ça. En fait, c'était des chefs de guerre très très puissants qui gardaient les marches. Les marches, c'est quoi ? Les frontières. Et donc les marquis, c'était des gens là aussi qui étaient surarmés et qui taxaient les marchandises qui arrivaient de l'autre côté.
Nous sommes toujours en reportage à propos de la conférence donnée par le sociologue passionné d'histoire Alain Bron à propos des Francs et de l'héritage qu'ils nous ont laissé.
Et tu as commencé ta conférence en nous présentant les peuples gaulois qui étaient présents, et notamment de Senlis à Crépy et tous les alentours. C'était les Sylvanectes.
Tout à fait. Sylvanectes, dont aujourd'hui on pense que c'était une sécession d'autres... Parce que c'est une toute petite tribu sur la carte des territoires gaulois. On pense que c'était en fait un peuple qui appartenait soit au Bélovac, c'est-à-dire Beauvais aujourd'hui, soit au Suessonne qui est Soissons aujourd'hui. Et donc ils ont dû faire sécession, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui. Voilà. Mais on sait qu'ils avaient de la monnaie qui était frappée par les Bélovaques, donc Beauvais, et puis par ceux de Soissons. Ils n'avaient pas leur propre monnaie. Ça veut dire qu'ils étaient vraisemblablement issus d'un ou de l'autre peuple qui ne s'entendait pas. Donc ils étaient tampons entre les deux.
Et par la suite, donc, les Francs ont commencé à venir sur ces territoires.
Les Francs se sont installés autour de Soissons, puis après dans le Valois, puis après du côté de Reims, puis on conquit pratiquement toute la France, plus la Belgique, plus une partie de l'Allemagne, plus une partie de l'Italie. Enfin, les cartes nous montrent un immense territoire qui finalement a modelé, a structuré l'Europe telle qu'on la voit aujourd'hui.
Encore une fois, très très important, la noblesse franque est là pour une raison très simple. Elle est là pour conquérir des territoires et récupérer le maximum d'argent.
En matière de structure, tu parles des rôles, notamment les comtes, les marquis, les ducs hérités des Romains auparavant, les marquis qui défendaient les marches de leur territoire, les frontières, et leur façon de fonctionner.
Oui, tout ça est hérité des Francs. Ils ont mis ça en place pour asseoir leur autorité, leur pouvoir aussi économique, leur richesse, La plupart de ces guerriers, parce que c'était des guerriers, ont tiré de leur existence une richesse incommensurable qui était partagée entre eux et leur territoire, et puis le roi au-dessus.
Clovis met en place la loi salique. Dedans, on connaît quelques articles, notamment l'article des aînés d'une famille qui va hériter, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais ça a duré 2000 ans. Pour les royautés européennes aujourd'hui, c'est toujours le cas, sauf dans les pays nordiques, où il y a des reines, mais tout l'héritage franc, c'est l'héritage des garçons.
C'est une histoire beaucoup plus diversifiée, complexe et riche que tu nous présentes, enfin en tout cas sur ce territoire, puisque aujourd'hui de Marseille à Calais, on nous présente la culture française et européenne globalement comme judéo-chrétienne et gréco-latine, et on ne parle quasiment pas du tout des autres influences, des autres peuples qui ont peuplé le territoire.
C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vrai que c'est une culture judéo-chrétienne, mais elle est héritée des peuples gaulois qui n'avaient pas du tout cette religion-là, et des Francs qui n'avaient pas du tout cette religion-là. Et aussi des Romains qui n'avaient pas du tout cette religion-là. Et donc aujourd'hui, c'est un peu réducteur de dire qu'on est simplement judéo-chrétien. On a des racines beaucoup plus anciennes que ça, des racines qui se voient dans les villages ici, par les chemins, par les menhirs. On a le plus haut menhir de Picardie ici, 5,35 m. À quelques centaines de mètres. Et donc, cette histoire-là, elle est inscrite, en fait, dans le patrimoine, avec des croyances qui sont bien antérieures, en fait, à la civilisation judéo-chrétienne. Et on est héritier de ça.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Un reportage de Lou Lemaître de Radio Valois-Mulsien au café citoyen d'Auger-Saint-Vincent, petit village à côté de Crépy-en-Valois dans le sud du département de l'Oise, pour une conférence de Alain Bron, sociologue passionné d'histoire à propos de la société franque et de l'héritage qu'ils nous ont laissé.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.